Voilà, donc la semaine dernière, on a vu, une seconde, d'abord, cette étude, je la dédie à la mémoire de ma belle-mère, Lily Bat Yehuda. C'est son yartzeit, son anniversaire de décès, le 2 Shvat, à 6 ans. Voilà. Alors, la semaine dernière, on a vu que Moshe Rabbeinu prenait sa femme et ses fils, qu'il les mettait sur un âne. Sur l'âne. Voilà. Et on est parti. C'est quoi l'âne? Oui. Et on a vu que le Maharal développait que l'âne, quelque part, tout en étant impur, a une certaine sainteté en cela que c'est l'animal avec une matérialité primordiale. Ce qui n'est pas le cas du cheval ou du chameau, etc., qui ont des particularités qui s'additionnent à lui. Donc ce n'est pas, l'animal impur primordial. Bon, ça c'est les mots du Maharal, et on est resté bête, quoi. On a dit « ian ». Hein, ok.
Il dit « l'âne, c'est le seul animal tamé pour lequel il y a la kedusha de Bechor, pour cette raison-là. »
Voilà, pour cette raison. Parce que c'est, de la même manière que le Bechor, c'est les prémices. Donc là, c'est le prémice de l'animalité. L'animalité, bon. Ça, c'est les mots du Maharal. On est resté... quoi ? Alors, on s'est rendu compte que les signes des animaux purs et impurs, bon, on les connaît plus ou moins. Ouais, sabot fendu, qui rumine, ouais. Qu'est-ce que ça signifie en vérité, hein? Alors, on ne sait pas. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que avant le don de la Torah, dans Noé, déjà on voit les animaux purs et impurs, donc ça n'a rien à voir avec Matan Torah. Hein, on va reprendre les versets, si vous le voulez bien. Alors, c'est page 32 pour les intimes. Vayomer Hachem, c'est bon. Vayomer Hachem, les noirs. Bo ata vechol betecha el ateva ki otecha raiti tzadik lefana ibadorasi. Dieu dit noir, viens toi, toute ta maison dans l'arche, car toi j'ai vu juste devant moi dans cette génération. Mikol abema atora tikar lecha shiva shiva ish veishto. Uminabema sherlo tora i shnaim ish veishto. De tout animal pur, tu prendras pour toi sept, un homme et sa femme. Non, c'est pas toi, l'homme et sa femme, c'est tu vois le taureau et la vache qui se prennent par la main en chantant Misotola Yefefia. Comment
c'est mignon.
Hein. Ah, on peut dire Zaha ou Nekeva.
Ah oui, c'est ça le mot, il existe. Ah,
pourquoi Ishveishto? C'est bizarre. Hein. Alors, Umidabema Sherlo Torahi est de l'animal qui n'est pas pur. Alors, la Gemara au début du traité Psarim fait un grand développement, c'est pas écrit de l'animal impur. Parce que la Torah ne veut pas dire des choses désobligeantes et dit qu'il n'est pas pur, il n'est pas impur. Deux, Ishvishto, regardons Rashi, l'animal tor, Rashi, Atida liot Torah l'Israël, lama nou chez lama noir Torah.
Vous voulez que je traduise? Comment? Ah bon? Ah, vous n'êtes pas hébraïsant, vous êtes distingué, mais pas forcément hébraïsant, toi, je sens. Hein? Alors, l'animal pur, donc des animaux purs, 7 vous prendrez. Ish veishtoj. Voilà. L'animal pur. Qu'est-ce que ça veut dire pur? Mais là, on est des milliers d'années avant Matan Torah. Qu'est-ce que ça veut dire animal pur, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi. Atida liot Torah l'Israël. Qui va être pur dans le futur pour Israël. Là, maintenant, on apprend chez l'Amad Noar Torah. Que Noar a appris la Torah. Qu'est-ce que c'est ce là?
C'est la seule démarche, Rachid. Donc il y a oui un rapport avec Matan Torah de la distinction pure impure.
Qu'est-ce que ça voulait dire? Ils ont les 7 commandements, ils ont les lois noachides, en vérité, qui vont lui être dites après le déluge. Qu'est-ce que ça veut dire un animal pur, un animal impur?
En plus qu'aujourd'hui on a des animaux impurs.
Comment?
Aujourd'hui on a des animaux impurs.
C'est quoi? Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que Noah, a priori, il a dû prendre que des animaux purs.
Non, il a des animaux purs. Tu prends 7 coupes. Et des animaux qui ne sont pas purs, c'est-à-dire des animaux impurs, c'est une manière détournée de dire impur, tu prendras 2 coupes. Hein? Donc il y a des animaux purs, des animaux impurs. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire animal pur, animal impur? Ça veut dire qu'il a appris la Torah. Qu'est-ce que c'est ce... Vous voyez, il y a des questions des fois hyper simples et qui sont hyper complexes. Hein? Bon, alors, moi je sais pas, que ça vaut le coup, il faut creuser, hein. Mais en tout cas, me semble-t-il que avant, moi je dirais avant le don de la Torah, comme on avait vu que Avraham, on a vu ça dans le Maharal, il apprenait la Torah de lui-même, de ses reins. Donc ça veut dire que quelque part, sans recevoir la Torah, on peut percevoir qu'est-ce que c'est un animal pur, que c'est un animal impur.
Il y a un passage qui dit qu'en observant la nature, on peut apprendre des choses de la Torah par l'observation.
Voilà, absolument, absolument. Donc là, par une perception, voilà, pudeur du chat, etc. Donc par une perception éveillée du monde qui nous entoure, on pourrait apprendre les fondements de la Torah. D'où l'animal pur, l'animal impur. Alors, regardez, moi, j'ai regardé un peu les commentaires classiques, mais une démarche vraiment structurée là-dessus. Il y a des démarches Rav Shimshon, Raphaël Hirsch, mais c'est vraiment homéopathique, quoi. Une petite nuance là, une petite nuance là. Mes démarches vraiment structurées, je n'ai pas vraiment trouvé. Et je me souviens, il y a X années, j'avais vu dans l'écouté à la chod de l'élève de Rav Narman Brassav, Rabbi Nathan, une démarche très développée. Et je vous propose qu'on fasse ça. Hein. Alors, là, il y a un livre sympa sur les signes des animaux purs, animaux impurs.
Rav
Hanan
Nachman de
Brest. Ian, tu vois, écoute, Ian, Ian. Voilà.
Le sabre.
Pas mal.
Ouais, comme ça, on peut les reconnaître.
Alors voilà, le sabot fendu. Alors, il est fendu. Hein, vous voyez, le sabot fendu. On peut dire qu'il est fendu. Ouais.
Non, parce qu'il y a une mitzvah de connaître les signes.
Oui, Chazak.
On l'avait fait ça, j'ai l'an 17.
Voilà, alors.
Il y a une mitzvah de connaître les signes.
Alors, vous voyez, le chameau, il a des pattes. Ses ongles, ses orteils sont bien séparés. Mais c'est pas un sabot.
C'est pas un sabot.
C'est pas un sabot. C'est pas un sabot. Alors là, c'est pas clair. C'est pas clair, ça c'est le lama. Hein, il est ambigu le lama. Bien qu'on on sache que le lama, c'est un camélidé.
Camélidé.
Un camélidé. Camel, ouais. C'est les cigarettes.
Ouais.
D'accord. Alors notre cher...
Le cochon.
Oui, là il est bien parti, hein. Là, hein, il est bien, hein. Il est postulant quand même, mais il ne rumine pas. Alors, ok. Alors je vous passe des photocopies.
Il y a d'autres sabots fendus qui ne ruminent pas que le cochon.
Comment ?
Le cheval. Attends, ça, il n'a pas de sabots fendus. Est-ce qu'il y a d'autres sabots fendus qui ne ruminent pas que le cochon ?
C'est ça.
Regarde pour toi. Voilà, garde, ne bouge pas, sois pas poli. Voilà. Si on apprend à ne pas être poli. La Torah est acquise avec Miout Derereretz.
Attends, ça c'est de qui ça?
Je vais expliquer, c'est bon.
Écoutez à la chôte.
À la chôte,
je vais expliquer.
Merci bien. Et Abdoukhamim.
Il y a de quoi faire, les mecs, attention. Il y a de quoi faire. Vous avez la permission de minuit, là, ce soir, c'est bon.
Ça pourra faire une veillée d'études, ça, hein.
Alors. Bon, alors lui, si vous voulez, bon. Non, ça c'est une seconde. Oui, mais pour monsieur, là.
Ah, je l'ai mis. Oui. Il a jusqu'à Khet, un clou.
D'accord.
Rech Pechet.
Ok. Bon, qu'on arrive déjà là, après on va voir. Hein.
Je connais votre jambe depuis.
Alors, si ça te dérange pas, parce que moi je prends pas de lunettes. Je suis allé voir un ophtalmo, il m'a dit que j'ai pas besoin de lunettes. Et franchement, il m'a dit que j'ai pas besoin de lunettes. Mais quand c'est petit, alors je vais pas prendre des lunettes simplement pour ça. Okay. Alors, donc j'explique. Donc ça, Rav Nachman de Breslav, je sais pas, il y a 230 ans, grosso modo. Et c'était un petit-fils du Baal Shem Tov. Et il a écrit une œuvre très concentrée dans des livres qui s'appellent Likutei Moharan. Et son élève principal, Rabbi Nathan, a développé son enseignement et l'a structuré plus. Voilà. Alors ça, c'est le livre de Rabbi Nathan, Sternartz. Sternartz, il s'appelle. Voilà. Alors, de la même manière que quand on fait du Maharal, il y a des notions qu'il faut décrypter. Là, c'est un tout autre langage et il faut aussi décrypter. Bon, on va essayer de se débrouiller. Hein. Ok. Alors, il dit, alors, il chot simane beimar vechayatora, les signes des animaux domestiques, des animaux sauvages purs. Parce que dans les animaux cachers, il y a des animaux domestiques et il y a aussi des animaux sauvages, comme le cerf, le chevreuil, le mouflon, la gazelle. Ce sont des animaux sauvages, mais cachers. Voilà, bien. Alors, Alpia Torah Tfila Lechabaku Siman Yutet Eskalaim Ilchot Shrita. Donc ça veut dire que c'est un développement du chapitre 19 du Likutei Moharan. Alors, Zebrinat Simanetara. Alors, la dimension
des signes de pureté. Qui sont, quels sont les signes de pureté? Malegera, mafris parsa. C'est malegera. Gera, c'est ce qu'on appelle en français le bol alimentaire. Un bol alimentaire, c'est bon? Non, les mecs, que vous sachiez pas l'hébreu, je conçois, mais le français, ça, c'est, faut pas déconner. Hein. Comment?
L'alimentaire, c'est ce qu'on a ingéré. C'est ça,
voilà, c'est ça fait un. Ouais, c'est français.
Comme le bol de cornflakes, tu vois.
Voilà. Ok. Alors, on m'affrise par ça, et qui m'affrise par ça, qui fait des plantes de pied. Par ça, c'est la plante de pied. M'affrise par ça, qui forme des plantes de pied. Voilà, m'affrise par ça. Qui a doua Zohar. Alors, il y a une référence dans le Zohar. Chez Minebe Mokte Chayotorot et Mebrina Noga. Que les espèces d'animaux domestiques, alors Bema, c'est animal domestique, Raya, c'est animal sauvage. Les espèces d'animaux domestiques et d'animaux sauvages purs, Mbembrinad Noga, sont d'une dimension qui s'appelle Noga. Noga, on pourrait dire, Noga, c'est. Il y a plusieurs, il y a le autour de la sainteté, tu as des couches hors de la sainteté. Tu as une couche qui est lumineuse. Voilà. Donc les animaux purs et impurs sont la dimension de cette couche externe qui s'appelle Noga, lumière. Vatmeim et Bebrinat Anan Sahara. Et les espèces impures sont de la dimension du nuage et de la tempête. Donc autour, si vous voulez, de la sainteté, il y a des dimensions. Une dimension qui s'appelle lumineuse. Après ça, il y a une dimension qui s'appelle Anan et Sahara. Mais Klipot Atmeot les Gamré. Si vous voulez, prenons une image. Ouais, prenons une image. Tu as un fruit. Prenons par exemple une noix. La noix, tu as le bon qui se mange, la noix. Mais autour, tu as une peau et après, tu as une écorce. Alors on pourrait dire, tu as le fruit. En termes de parabole, c'est comme les clipotes, les peaux qui sont autour du fruit, mais les animaux impurs, les animaux purs, on pourrait dire, c'est la peau qui est autour, qui est encore luminescente, qui a encore à voir avec le fruit, bien que ça ne soit pas vraiment mangeable en tant que tel, mais ça a à voir encore avec le fruit. Et plus externement, tu as l'écorce qui, elle, n'est plus mangeable du tout, et d'un point de vue métaphorique, on pourrait dire, c'est l'impureté. L'impureté. Alors, Vatmeim et Mebrinat Anasara Klipot Atmeot et Gambri. Ce sont des peaux impures complètement. Chez Ebrinat Lachon Targum, Shumbrinat Noga. De la même manière, de manière métaphorique, tu as le Lachon HaKodesh. L'hébreu, ça s'appelle le Lachon HaKodesh. Le langage kadosh, saint, et autour, tu as la traduction en araméen, et après, tu as les langues des nations.
Est-ce que
que les princes des nations et les langues des nations, ça a quelque chose?
Sûrement, ça a à voir. Sûrement. On a déjà parlé de ça. Alors, si vous voulez, on peut dire de la même manière. Tu as un patois, tu as le patois hébreu. C'est comme le yiddish, le ladino, si vous voulez. Ouais. Le yiddish, le ladino, ou le judéo-arabe, machin. C'est le langage araméen avec lequel on traduit la Torah. C'est le Targum. Et ensuite, tu as le nom. Les 70 langues d'Elohim.
Et l'ivrite, il est où? Je suis d'accord, c'est l'ivrite.
Où est-ce qu'il est l'ivrite?
Ah, tu parles de l'ivrite de Eliezer Ben Yehuda. Voilà,
Il dégaine, hein. Ok. Bon, si vous voulez, c'est comme on va dans le Maharal. Les grands auteurs, ils ont leur terminologie. On va continuer, ça va s'éclaircir, hein. Parce que qu'est-ce que ça a à voir avec le fruit, les clipotes, tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir, hein? Alors, il dit, le Targum, c'est la dimension de cette peau lumineuse. Brinat et Sadat Tovara, c'est la dimension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, c'est encore une autre manière de dire les choses. Ça veut dire, vous avez votre luge, quoi.
Moi, j'avais pas prévu un shiur de Kabbalah, là, je suis pas allé au
Non, c'est pas la Kabbalah, c'est de la Chassidout. Attends, tu vas voir, on va s'en sortir.
On va tromper au Migvé avant, tout ça.
On y va. Alors, Brinat et Adat Tovara, c'est la dimension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que chez Misha Mina Matorim, c'est de là que viennent les espèces pures. Les espèces pures viennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme chacun sait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est clair.
Les vaches, c'est pas dans les arbres.
Moi, je trouve que ça fait un effet bœuf, ça fait un effet bœuf ce soir. Voilà, Vatmeim, les espèces impures, on passe à la deuxième fois. Alors, comme chacun sait, les espèces impures, c'est les langues des nations.
C'est hard, hein? C'est peut-être pour ça qu'il
attends. Il va parler de ça dans la suite. Tu vas voir. On continue. Les langues des nations, Shemra à Kolel, qui sont le mal absolu.
Mais là, les corps, ce n'est pas le mal absolu, ça protège le fruit.
Comment? D'accord. Bon, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le mal. Non, en français, le mal absolu, c'est le tueur en série, que sais-je, ou... D'accord. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, le mal. C'est, le mal n'est peut-être pas si mal que ça. Hein? On va voir, hein. On va voir. Mais ça s'appelle... Comment? Voilà, ça dépend du prix que tu mets. Alors, il dit... Shemra Kolel, c'est le ra global. Shembrinat Aklipot Aniskarot Lail, c'est la dimension des écorces dites plus haut. Shem Baim Tov, il n'y a pas du Tov dans les langues des nations. Comme chacun sait. Alors, Vealken Asimanetara, c'est pourquoi les signes de pureté, évidemment. C'est mal et Guéram a pris par ça, donc ce qu'il fallait démontrer. Donc, ce qui est bien clair, oh, tu vas voir que les signes de pureté sont ruminer et avoir les sabots fendus. Évidemment. Quique va me voir, c'est déjà expliqué plus haut. Shane fashot va chayot chez babé mot, shamina chay, emne fashot chez naflou, megeder me daber le geder chay. Que les vies, anefashot, la vita, les vies et les âmes qui sont dans les animaux et dans les autres animaux vivants, ce sont des âmes qui ont rétrogradé de la dimension de parlant à la dimension de vivant. Si vous voulez, il y a une dimension de métempsychose. De métempsychose.
Non, tu t'as pas usé de ton langage, tu te seras réincarné en mouche.
Voilà.
Vous avez dit un truc comme ça une fois que. En mangeant la viande de l'animal ou...
Mais je l'ai tiré de ce qu'on va voir. Oui, hein. Voilà. Alors, voilà. On a déjà parlé de ça. Hein.
Mais donc il y a une notion de d'âme dans l'animal.
Attends. Regardez, on prend déjà connaissance de ce qu'il dit. Ça va venir. C'est des choses compréhensibles, mais pas en première lecture. Que dans les bémotes purs, voilà, dans les bémotes de manière générale, la vie de ces animaux, ne nous focalisons pas sur la dimension anecdotique. Est-ce que ton arrière-grand-père, par alliance, il est tombé dans un chevreau, ouais, et que
dans le steak hyper cachère.
donc
rayon surgelé.
Ouais, n'essayons pas de rentrer dans l'anecdote parce qu'on va pas s'en sortir. C'est pas là-dedans qu'il faut aller. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est de quoi il parle. Il y a une vitalité dans les animaux. Alors, on a déjà vu ça. Qu'il y a plusieurs ordres dans le ce qu'il y a. Il y a le minéral. Le végétal.
Il n'y a pas de problème des chérouettes
dedans. Le vivant. En réalité, on a vu ça. Que le vivant et le parlant ont presque tous les éléments communs, sauf qu'ils n'ont le vivant, les bémons n'ont pas l'intellect qui va faire qu'il y a la parole. Il y a des signes, des signaux. Par exemple, on sait que les dauphins ont des signaux très élaborés. Les animaux ont des signaux. Mais une différence entre le signal et la parole. Tu peux émettre des sons qui communiquent quelque chose. Ouais.
Il n'y a pas de création dans la communication. Rien ne sort de la parole.
Voilà.
Dans la communication.
Voilà, c'est le communiquer des informations, si tu veux. Mais un langage. Alors ça, il faudrait creuser. Hein, il faudrait creuser. Est-ce que là, il y en a des spécialistes des dauphins parmi nous ? Non ? Toi, là-bas en Slovaquie, t'as pas vécu 3 mois avec des dauphins ?
Quoi, il est de Slovaquie ?
Bah, peu importe.
Le pays du Khatam Zover ?
Bon, d'accord. Non, laisse tomber. T'engouffre pas, je t'en supplie. Voilà.
C'était pour vous détendre.
Alors, c'est bon. Il y a, d'après certains aspects, que dans l'animal vivant, il y a des vies qui ont rétrogradé. On avait déjà parlé de ça. Hein. Qui ont rétrogradé, qui ont chuté du parlant au vivant. C'est ce qu'il dit. que va me voir, chanefashot va chayot, je va behemot, chamine behay, que les vies, la vitalité des animaux domestiques, des autres êtres vivants, ce sont les âmes qui ont chuté de parlant à la dimension de vivant. Vemcham et brina nefashot ashukim, ce sont les âmes spoliées, ce sont des âmes spoliées qui ont été faites prisonnières, si vous voulez, dans l'animalité. Qui aime Ashukim Nixalim Sham, c'est comme si elles étaient spoliées là-bas. Chez Lilkam et Amadiboun, fait la table des Sham, que leur a été arrachée la parole en chutant dans l'animalité. Vederer en effet, chaque dosha, chez Mitromemet, Tamil les Mala. Or, même dans ces êtres vivants, il y a une âme sainte qui recherche toujours à remonter, qui mitavet ou mamshech et atzma les shorshat tamid. Elle désire et aspire à retrouver son origine, à retrouver son lieu originel. Vezebrina malegera. Et c'est ça la dimension du ruminant. Chez Babema Torah, qui est dans l'âme pure, Chane Fashot, chez Bedavar, Anechal, chez Baou, Ata, Venaflou, Leto, Brina, Tara, Yenam, Yochim, Nisvol, Yotcham. Que les âmes qui dans ce qui est mangé viennent dans lequel elles se trouvent, qui ont chuté là-bas, dans la dimension vivante, ne supporte pas de rester que là et recherche à s'élever et se s'élève elle-même vers le haut jusqu'à la bouche, jusqu'au cou.
C'est le mouvement qui remonte.
Où, voilà. Où est la dimension de la parole qui est le lieu de la vitalité. La parole, c'est le lieu de la vitalité puisqu'on dit que l'humain, ou Chaim Daber, c'est un vivant qui parle.
Ah, donc ça veut revenir vers la parole. Ça veut dire leur... Comment je pouvais vivre sans savoir ça?
Attends, doucement. Non, c'est... Alors qu'est-ce que tu as saisi?
C'est-à-dire que ces âmes-là, ces prisonnières, ce qui caractérise leur descente de Medaber à Chai, c'est précisément que la parole leur est retirée.
Voilà. C'est...
Et donc dans cette digestion où ça remonte, ça remonte justement vers la bouche qui est le siège de la parole.
Et vous voyez bien,
là, vraiment,
allez comprendre aussi tout de suite que la différence entre l'animal et l'homme, il y a deux différences. C'est la parole et la stature debout. Donc les pieds.
Les pieds fendus, quoi, qui illustrent une aspiration à vouloir se tenir debout.
Bon, on va voir. Mais la stature, la manière de se poser sur ses pieds.
Ah là là.
Qui distingue l'homme. Attends, on va voir.
Non, on déjà. C'est tellement prendre les choses à l'envers de nous, parce qu'on est tellement habitué aux trucs darwiniens, les animaux, ils trouvent leur fonction de ce qu'il y avait avant, alors que là, c'est de l'homme.
Qui va vers l'animal.
C'est l'homme qui leur donne leur sens. Et qui
Rabbi Bilbal, il dit, il y a un midrash qui dit... C'est le singe qui descend de là.
Ouais, c'est ça.
Je crois après ma boule, il y a une histoire comme ça, non? Je veux pas provoquer, mais parfois, tu vas à la ménagerie du jardin des plantes, les singes, c'est vrai qu'ils ont des attitudes, c'est troublant. Hein.
Ah ouais,
le gibon.
C'est très troublant. Ils te regardent
par le gibon.
Ils te regardent comme ça, tu dis, celui-là, il...
Ouais. Même entre eux et tout.
Ouais, c'est troublant. Ça.
Mais ouais.
Donc là, surtout les naziques, t'as déjà vu des naziques? Il y en a au jardin des plantes. Avec le gros nez. Oh, moi j'ai vu, attends, on était là-bas au jardin des plantes, je sais plus quand est-ce que c'était, il y a moins d'un an, avec mes petits-enfants. je pouvais plus quitter mon regard du nazi qui c'était, on dirait, notre cousin, quoi. T'as envie de lui dire Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem. J'ai bien changé depuis Varsovie.
Donc le processus de rumination, c'est une aspiration en fait à vouloir revenir vers la parole.
Vers la parole, voilà.
Allez. C'est le même truc que le Maharal disait, l'inversion entre le mouvement de la matière et le mouvement de l'esprit. Parce que nous, on voit toujours le truc évolution dans le temps, on est passé des choses les plus simples aux plus compliquées. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on part de ce qui est la pensée et ça définit l'ordre par.
C'est-à-dire, c'est comme si le résultat, c'est lui qui va définir le reste. Voilà. Oui, bonjour, mes hommages. Non, nous sommes dans un espace d'absolution. Par contre, je sais pas ce qu'on va faire. Vous suivez ensemble, tu passes, hein, voilà. Non, c'est bon, mon ami. On y va. Alors. Donc, c'est ça la dimension de. Parce que, en un mot, la semaine dernière, on avait vu dans le Maharal, il avait fait tout un développement sur les animaux impurs. Que l'âne était les prémices des animaux impurs. Parce qu'il y a une dimension de simplicité dans l'âne qui ne sont pas les autres animaux. Et on était perplexe, comme si tu pouvais, si tu observes avec finesse des êtres vivants, tu pouvais en dégager une certaine sagesse. Et nous, quand le résultat, c'est que on entend que i-an, émeut. Hein. Moi, je vois pas trop de nuances à ça. Comment ? C'est Rabbi Nathan Sternhartz, élève de Rav Nachman Pasman. Alors là, il y a une grande démarche. Comment ? Voilà, c'est le grand élève de Rav Nachman Breslav. En vérité, c'est par lui qu'on a l'œuvre de Rav Nachman Breslav.
L'Ikuté Moharan, c'est lui qui les a mis sur la
table. Alors, il y a deux parties. Il y a deux parties dans l'Ikuté Moharan. La première partie, c'est lui, dans son écrit. Le deuxième, c'est Rabbi Nathan. Mais il y a aussi un mythe que Rabbi Nachman, même il voulait brûler son œuvre et qu'il ne reste aucun écrit. Et c'est comme Amavdil Kafka, tu vois, qu'il y aurait. Voilà.
Les Ashkenazes, vous êtes tous torturés aussi. Hein. Attends, il y a quand même des points communs. Hein. Je veux pas. Excusez-moi hein, pour le respect du chiour. Mais...
Ouais.
T'as jamais entendu un auteur thune qui voulait brûler tous ses livres hein. Non, c'est un truc de.
Quand les œuvres complètes de Bourguiba étaient.
De Rabbi Mazouz, machin, je sais pas quoi. Et... Bon, voilà, c'est pas. C'est pas... Voilà.
Comment ?
Je crois que c'est la mère de Rabbi Kreitaïev.
Je sais pas.
Elle avait peur de voir travailler, elle avait tout balancé.
C'est d'accord, donc c'est pas qu'elle ait été torturée. Non, mais bon.
On continue. Donc voilà, donc ça veut dire. C'est ça la dimension du ruminant dans l'animal pur, que l'âme qui se trouve dans ce que tu manges, dans lequel c'est tombé, c'est rétrogradé du parlant au vivant, ne supporte pas et aspire, se fait monter jusqu'à la bouche. Jusqu'au cou, où est le lieu de la parole, qui est le lieu de la vie. Mais Brinat, comme dit le verset dans les Cantiques de Cantiques, Nafshi Yatsa Bedabro, mon âme est sortie en parlant. Bon, ça, Rav Nachman Breslav fait un grand développement, toujours dans plusieurs endroits, sur ce verset, Nafshi Yatsa Bedabro. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne s'exprime pas est mort. On commence à vivre en exprimant. C'est-à-dire, la pensée n'existe que quand elle est, que par la parole. Une pensée non exprimée n'est pas une pensée. C'est-à-dire, tu vois, y en a, par exemple, qui... ils écoutent des conférences de Torah, je ne sais pas, de Rav Zizek ou je ne sais pas quoi, ouais, ou d'autres compères. Mais ce n'est pas l'étude de la Torah, parce que tu n'as rien exprimé. Comme je dis souvent, excusez-moi l'expression, c'est peut-être mieux que de voir des sites porno. Mais ce n'est pas l'étude, c'est bien, mais en soi, pourquoi pas. Mais l'étude, c'est quand toi tu parles, quand tu exprimes quelque chose.
Donc même à la limite dans une salle, dans un chiour, mon frère, on serait en mode magistral où les élèves n'interviennent pas.
Voilà, c'est pas de... Si, alors le Rashi explique au début de traiter Brachot, si tu reprends le cours avec tes compères, avec ton chaver, ça c'est... oui. Mais si tu le reprends, si tu le reprends pas, c'est pas de l'étude. Tu vois pas, tant que tu n'es pas capable de reprendre, ça n'a pas étudié la Torah. On y va. Kanefashot chez Bechol Mina Chaim. Kanefashot chez Bechol Mina Chaim va me d'abrim. En minadvarim anechalim. Parce que la vitalité, quand tu manges, alors ça c'est quelque chose de très 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 important. C'est quelque chose d'importantissime. Qu'est-ce qui fait quand on mange que ça nous donne de la vie? Ça c'est un grand thème de Kabbalah, mais beaucoup développé chez les maîtres du chassidisme, qui aussi développé à Mavdil dans les disciplines extrême-orientales. Que nous, il y a l'union de notre neshama, de notre âme, de notre vitalité à notre corps. Quelqu'un qui ne mange pas, l'âme se sépare du corps. Ça, en français, ça s'appelle « il meurt », pour faire simple. Qu'est-ce qui fait, dans ce que je mange, qu'il y a l'union de l'âme et le corps? Alors, l'imbécile va dire, bah oui, tu as des sels minéraux, je sais pas quoi. Comment quoi? Ouais, tu as de l'énergie, etc. Mais c'est une manière de voir, qui est peut-être pas fausse en soi. Mais, parce que pour nous, la dimension de la vie, est une dimension la dimension de la vie est une dimension impalpable qui n'est, dont on n'est pas qui nous échappe quelque part. Alors ces dimensions là de la vitalité, du nefesh et de la neshama est lié, se relie intimement à notre corporalité quand on mange. Quand on ne mange pas, ça se sépare. Donc il y a quelque chose dans le manger qui unit cela. Mais ce n'est pas forcément la bidoche, ce n'est pas forcément le grain de blé. Il y a de ça, mais il y a quelque chose, il y a une vitalité sous-jacente dans le manger que certains diraient, je ne sais pas, une spiritualité impalpable qui unit l'âme et la corporalité. Alors, ce nefesh-là, il dit qu'il y a nefashot, que cette vitalité qui dans tout être vivant et dans les parlants vient de ce qu'on mange. C'est la vie de tous les êtres vivants et des êtres parlants vient de ce qu'on mange. Alors c'est pour ça, vous voyez que les grands maîtres du chassidisme, la table chassidique, le tish, c'est le summum du service de Dieu, quoi. C'est
tu
la
tranche du kugel du rebbe, voilà. Et donc tu participes de l'union de l'âme et du corps qu'a réalisé le rebbe sur le kugel. Ouais. Non, mais c'est en fait, conceptualiser les choses comme ça.
Bah, Non, c'est obligatoire, sinon tu
sinon,
te dis...
Sinon, on reste dans les petites histoires folkloriques.
Ok. Kachila. Car le manger, alors ça c'est très développé dans Ranaman Baslav, il y a plusieurs livres sur cette notion. Car le manger est le principal de la vitalité et du maintien du corps. C'est du manger que reçoit le corps sa vitalité de la dimension qui s'appelle Nefesh. Parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs dimensions dans la vitalité. Il y a Roua, Nefesh, Neshama. Tu as un souffle. Tu as un souffle en nous. Tu as une vitalité et tu as une âme. Tu as plusieurs dimensions. Plusieurs dimensions. Tu n'as pas qu'une seule dimension. Tu as la dimension, la vitalité qui est commune avec l'animal. Mais le Rambam développe. Elle est commune, mais n'est pas la même. Là, c'est pas la même. C'est pas parce qu'elle elle est commune qu'elle est la même. Alors, chez Misham, Kabel, Agouf, Réodobrina, Mise, Beatzmo, Nassé, Adibour. Donc c'est de là que cette vitalité, que vient la parole. Kadibour, Ubrina, Tanefesh, Chouadam. Alors ça, j'avoue, ça me dépasse un peu. La parole. Et l'union, si vous voulez, chez l'homme, de toutes ces dimensions, et qui est le sang. Le sang, c'est par le sang que vient tout le développement, c'est par le sang qui est porteur, qui est le vecteur de toutes ces dimensions de vitalité chez l'humain qui va amener la parole. Qui a dibour nasé min adamim. La parole vient du sang, qui est de ces dimensions de vitalité. Kemo chez Peresh Rabbeinu Nero Yahir, comme dit mon maître, que sa lumière éclaire. Donc c'est intéressant, on voit qu'il a écrit ça du vivant de Rav Nachman Breslov. Comme explique notre maître, chez Keshe Orli Meze Davaraza Yotzi Manefashot Sheba Davar Nechan Mitaprim Lemo Nefesh Aochel. Quand on mange quelque chose, sort la vitalité de la chose qu'on mange et se transforme dans la vitalité de celui qui mange, bien évidemment en vérité. Seulement nous, on est tellement, comment dire, le manger est bien évidemment instinctif chez nous. Mais c'est pas parce que c'est instinctif que c'est pas spirituel.
Dans la pizza chez Aroma, il y a de la vitalité, il y a...
Comment ?
Dans la pizza chez Aroma, il y a un truc, il y a quelque chose, quoi. Bon, plus que...
Surtout depuis que mon copain Gadiel est riche et le patron là-bas, c'est encore plus. Évidemment, il y a...
C'est étonnant.
Enfin, c'est quoi étonnant? Dis-moi.
Non, mais c'est pas instinctif. Quoi.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu demandes à une girafe. C'est sûr que nous, manger. Je sais pas, je suis rentré tout à l'heure chez moi, j'avais faim, il était tard. Et j'étais nerveux, quoi. Non, ça veut dire. Nous, on vit instinctivement le fait d'avoir besoin de manger. Mais si on analyse la chose, le fait de manger est comme toute chose, hein, c'est invraisemblable. D'ailleurs, même les médecins, ça sera invraisemblable. Hein, comment ça se fait qu'on mange, comment ça se fait qu'on digère, c'est infini. La digestion, t'as des gastro-entérologues, toute leur vie, c'est la digestion. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? La digestion. Comprendre la digestion. Et une vie ne suffit pas là-dessus. Alors, parce que c'est incroyable, même plus que ça. Alors, justement, on peut comprendre qu'il y a tellement de lois lié au manger. Moi, j'explique comme ça. Ça, c'est pas ce qu'il le développe pas ici. Mais je l'explique et j'écris là-dessus, c'est sur le site, que manger, est une des expériences les plus incroyables de la vie. C'est-à-dire que tu as l'expérience du monde. L'expérience du monde. Je mange le monde. C'est, d'ailleurs, c'est pour ça que dans certaines cultures, il y a le cannibalisme.
C'est pour ça aussi qu'on dit avaler un bouquin. Parce que, d'une certaine manière, le bouquin, on veut le faire...
Mais si tu veux, moi je dirais, il y a deux expériences dans la vie humaine qui sont paroxysmiques. C'est l'union de l'homme et la femme et manger. Manger, c'est paroxysmique. C'est tu manges, tu le montes, tu le mets à l'intérieur de toi et tu deviens ce monde. C'est c'est ce qu'on a mangé hier soir au gala. Ouais, le ce qu'on a mangé là, le petit... la côtelette là, de la côte de veau là, qu'on a mangé hier soir, elle est là. Donc c'est pour ça que ces lois sont énormes, les lois de Kashrout sont énormes pour nous faire prendre conscience de cette expérience invraisemblable. Comme de la même manière, il y a des lois incroyables sur les relations intimes entre un homme et sa femme. Les lois Nida, c'est des lois colossalement complexes de se rendre compte qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est quelque chose d'énorme. C'est pas un truc, c'est pas un truc à galvauder. C'est pas bon, mais la bidoche, vas-y. Non, c'est la viande. C'est un monde. Alors c'est vrai que nous, on se rend. On a du mal à se rendre compte de ça. Parce qu'on n'a pas. Soi-même, on ne fait pas la shrita, on ne fait pas la bâche rituelle, on soulève le truc du congélateur. Il n'y a même plus des boucheries traditionnelles.
Cette histoire de vitalité, c'est uniquement pour les animaux, il y a aussi pour les végétaux.
Végétaux aussi. Voilà. Parce que, en vérité, dans notre être, c'est tous les éléments de la création vont participer. Le minéral, le végétal et le vivant. Ok. Alors là, c'est la phrase clé. Chez Keshéorli, mes Edavar, quand on mange quoi que ce soit, Azal Yotzim Anefashot chez Bedavar Anechal, les vies qui sont dans la chose mangée se transforment dans la réalité de ce que je mange. Donc c'est sûr que, si vous voulez, de la même manière, excusez-moi l'expression, que de la même manière qu'un homme ne s'accouple pas avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, de la même manière, il ne peut pas manger n'importe quoi, n'importe comment. C'est parce que c'est qu'est-ce que ça signifie, que c'est porteur de quoi, et qu'est-ce que je suis en train de vivre. C'est ça la question. Kina c'est minama khalim damim, car du manger se transforme le sang, qui est la vitalité du mangeur. Et de cette vitalité monte et devient la parole. Donc on parle parce qu'il y a une vitalité. Mais d'où vient cette vitalité? C'est la côtelette de veau d'hier soir.
Les deux passent par la bouche.
Ça passe par la bouche.
Mais ultimement, tout le but de la côtelette de veau, c'est la parole.
C'est la parole.
Alors la parole de Hoffman, on dira sûrement, mais en tout cas, c'est la parole.
C'est la parole.
Ultimement. C'est pas forcément de courir, enfin, utiliser pour courir, c'est une chose, mais c'est pas ce qu'il dit là. Il dit pas ça nous sert à courir pour aller prendre le bus là.
Oui, parce que là, ça c'est. Ça, à l'animal, une gazelle, elle courra plus vite que toi. T'es encore en mode gazelle.
Et ouais, Bratislava, c'est des potes, hein.
Ah oui, c'est... Je vais vous dire, moi, c'est le seul texte que j'ai vu clair. Enfin, c'est pas terminé, on commence. Hein. C'est beau, hein. Ça, c'est la chassidoute. En tube. Voilà. On y va.
Et c'était Rav Nerma de Breslav, et c'était un connaisseur de toute la Torah, tous les aspects de la Torah. Il rapporte des versets de derrière les fagots que personne ne connaît pour étayer sa thèse. Vous mangerez, vous serez rassasiés et vous glorifierez. Je regarde le verset, hein, dans Yoel Bet Kavav. Alors, le verset Yoel Bet Kavav. Alors, c'est un verset, donc le prophète Yoel. Vous mangerez, mangez et rassasiez, et vous glorifierez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui a fait avec vous des prodiges, et mon peuple n'aura plus jamais honte. Voilà. Donc tu seras rassasié et tu glorifieras. Donc ça veut dire le manger est là pour ouvrir la bouche et glorifier Dieu. Kadibur nasse min achila, car la parole vient du manger. Mais je vais vous dire en toute simplicité, hein, je pense que ça, c'est les Occidentaux. Je suis pas très spécialiste, mais il y a une coupure entre la spiritualité et la réalité matérielle. Mais chez les Orientaux, presque il y a la même chose. C'est pas. Excusez-moi l'expression, c'est pas spécifiquement juif, ce qui dit. Dans les disciplines extrême-orientales, c'est presque copier-coller. D'ailleurs, j'ai une thèse, elle vaut ce qu'elle vaut, je la présente à monsieur. J'ai discuté avec des spécialistes du soufisme que la Pologne, enfin la région où il y avait le Baal Shem Tov, la Podolie était une région qui avait été envahie par les Turcs. Et j'ai demandé à des spécialistes du soufisme et du chassidisme, est-ce que ce n'est pas envisageable qu'il y ait des passerelles entre les disciplines soufies et le chassidisme ? D'ailleurs, il y a des chants des derviches tourneurs et des chants chassidiques qui sont presque les mêmes. T'as creusé un peu ça, Dov ?
Je connais le texte de Paul Fenton.
Ah, j'en ai parlé avec lui.
Il y a une série d'énormément de choses. Les similitudes sont.
C'est
multiples.
Ouais.
Tout ce qui est pèlerinage dans les tombes des morts, tout ça, c'est des saints, tout le travail, tous les makamats. Enfin, il y a des centaines de choses qui sont des influences ottomanes. Donc.
Bon, voilà. Ça veut dire, je ne veux pas enlever, ça n'enlève rien à la pertinence, hein. Mais si vous voulez.
Quand elles sont passées dans le monde, dans l'islam, beaucoup de choses venaient de traditions anciennes.
Voilà, mais restauration. Mais, oui, voilà. Bon, alors, où est la poule et où est l'œuf, hein? Mais même dans les disciplines extrême-orientales, le manger, et il y a une énorme spiritualité dans le fait de manger. En Occident, l'essentiel, c'est que le cassoulet, le castelnaudary, soit bon. Voilà. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Je n'ai pas connu. Mais dans les extrême-orientales, il y a une grande spiritualité sur le manger. Voilà.
J'ai juste pas compris le
dire qu'il a, il a, pourquoi il a quel rapport entre le Dibourg et le Hokkaï. Donc il, quand on mange des machins qui sont enfouis, on va dire dans la
question le
dès qu'ils arrivent, dès qu'on les mange, ils ne supportent pas les rabaisser à ce niveau-là.
Non, c'était quand ils étaient chez l'animal.
Ah, okay,
quand ils étaient chez l'animal, tu leur donnes la possibilité